Attention, attention, programme spécial. Les ateliers.
Les ateliers.
De l'autre radio.
Salut à tous, chers auditeurs, bienvenue dans MLD News, une émission pleine de rencontres, de portraits, de personnes inspirantes. Autour de la table avec moi, il y a Christy et Irina, salut à vous.
Salut.
Salut.
Et moi, Maël.
Allez, on démarre tout de suite avec une première interview. Il s'appelle Anthony, il est buraliste, mais aussi grand karatéka. Il entraîne d'ailleurs ici à Laval et il est au micro de Maël.
Bonjour, vous êtes Anthony Lecombe. À quel âge as-tu commencé le karaté ?
Bonjour tout le monde. Donc moi j'ai commencé le karaté à l'âge de 7 ans, en 1987. Ça fait déjà quelques années déjà. Et j'ai jamais arrêté en fait où j'habitais. Il n'y avait pas beaucoup de sport non plus. Donc c'était l'occasion. Le judo était complet à l'époque. Et donc mes parents ont fait le choix de me mettre dans un art martial aussi, mais dans le karaté. Et puis de fil en aiguille, j'y suis resté. Et puis toute la famille s'y est mis aussi après moi. Et puis on a continué dans cette voie-là.
Quelle ceinture as-tu aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, je suis ceinture noire, 3e dan. Et j'ai obtenu ma ceinture au mois de décembre, la 3e dan. En fait, je suis ceinture noire depuis 1998, donc j'avais 18 ans. Parce que du coup, on pouvait passer que les ceintures à l'âge de 16 ans. Et moi, j'ai plutôt tardé puisque j'étais pas trop technique, plutôt compétition-combat. En fait, dans le karaté, il y a plusieurs, on va dire, c'est un éventail assez large. En fait, il y a de la technique, du combat, de la self-défense. Mais du coup, moi, où je m'éclatais le plus, en tout cas, à partir de 14-15 ans, c'était dans le combat. Alors ça, j'ai fait aussi des katas. Les katas, c'est de la technique. Et pour passer les ceintures, il faut faire des katas. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps que les autres à avoir ma ceinture noire. Mais finalement, avec du travail et de la persévérance, on y arrive.
Depuis combien de temps es-tu entraîneur ?
Alors officiellement, j'ai passé mon diplôme à 18 ans, mais j'assistais mon prof à l'époque sur Segré, où j'ai commencé, et vers 15-16 ans, j'étais ceinture marron. Et puis après, je me suis fait la main avec mon frère, ma sœur. Du coup, après, j'ai eu des élèves, j'ai eu mon groupe à partir de 18 ans, et j'avais passé un diplôme d'instructeur fédéral. Et ce qui m'a permis après de continuer dans cette voie-là aussi, puis j'ai jamais arrêté en fait. J'en ai fait mon métier pour finir. J'ai toujours eu un petit boulot à côté pour arrondir les fins de mois, on va dire. Mais surtout, mon fil rouge, ça a toujours été le karaté depuis que j'ai commencé.
Combien de groupes entraînes-tu ? Quels âges ?
Ouais, du coup, alors quand j'ai commencé, il n'y avait que deux groupes, les enfants et les adultes. Aujourd'hui, je commence les groupes à partir de 3-4 ans. Ce qu'on appelle les samouraïs, c'est les tout petits. Après, il y a les baby karaté, les 5-6, et puis ainsi de suite, les moins de 10, les ados, les adultes. Et mon plus vieux, il doit avoir 60, je dis pas de bêtises, il a 74 ans.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir entraîneur de karaté ?
Une passion de transmettre, comme je te disais tout à l'heure, d'abord à mon frère, ma sœur, et puis aider aux copains, puis finalement, il y a un petit noyau, on se rejoint le samedi matin, on s'entraîne ensemble, et puis je m'aperçois que finalement je suis pas trop mauvais à transmettre mon karaté, parce que je pense qu'en fait c'est aussi l'intérêt. Moi, il faut connaître ses limites. Moi, je suis issu surtout de la compétition combat. Il y a des choses que je maîtrise pas dans le karaté encore, et encore aujourd'hui, hein, je pense que apparemment, il faudrait 5 vies pour tout apprendre du karaté. Donc on n'en aura pas assez d'une, c'est sûr. Et je conseille en tout cas à mes élèves, quand ils deviennent ceinture noire, ils partent de Château-Gontier avec une ceinture noire, ou de Laval, et ils peuvent au moins continuer avec un autre entraîneur, apprendre d'autres choses. Et puis des fois, par chance, on a des élèves qui reviennent professionnellement dans leur ville natale. Et c'est un plus pour nos clubs. Puisque je vois sur Château-Gontier aujourd'hui, on a 4-5 entraîneurs, dont 3 qui sont vraiment issus du club de Château-Gontier. Et ça, et en ayant été s'entraîner dans d'autres clubs de la région.
Quelles sont les valeurs que tu partages au karaté ?
Eh bien, de transmettre, je pense, et puis aussi le travail d'équipe, savoir aider l'autre à progresser. Puisque c'est aussi l'intérêt, si on veut avoir de bons coéquipiers, de bons élèves, il faut aussi ne pas garder son karaté pour soi, mais plutôt transmettre tout ce que tu peux apprendre ailleurs et le ramener dans ton petit club et puis les transmettre aux autres. C'est comme ça que moi j'ai toujours procédé.
Sinon, un peu plus à côté, que prends-tu le petit déjeuner? Comment c'est la journée?
Alors moi, je suis pas un bon élève là-dessus parce que le matin, je prends qu'un café. Et en fait, je fais un gros repas le soir. En fait, je mange un petit peu au goûter avant le karaté. Et puis, je mange bien après le karaté puisque en fait, j'ai beaucoup éliminé. Du coup, c'est vrai que dans la journée, bah, j'ai tendance à pas trop avoir faim non plus. Et puis, c'est un rythme que j'ai depuis des années et des années. Donc en fait, maintenant, je crois que ça ne reviendra plus. Alors après, je fais beaucoup moins de sport maintenant. Enfin, je m'entraîne moins aussi puisque de transmettre, c'est pas la même dépense. Et forcément, jusqu'à 30 ans, je faisais moins de 60. Aujourd'hui, j'en fais 70 et j'ai 40. Forcément. Et c'est aussi important d'avoir une bonne hygiène de vie. Et là-dessus, il faut faire attention à ce qu'on mange derrière et boire beaucoup d'eau pendant le sport.
Ah oui, pour éviter les courbatures. Oui.
Exactement.
As-tu déjà participé à des grands tournois?
Eh bien, souvent les championnats de France, les Coupes de France. Et puis, j'ai gagné un tournoi international à Orléans. Mon frère était meilleur que moi, ma sœur encore meilleure que mon frère. Ma sœur fait championne de France, mon frère fait deuxième. Et moi, en fait, je suis un peu le poulie d'or du karaté. J'ai toujours fini cinquième au niveau des podiums. J'ai jamais eu une médaille nationale, ce qui m'a pas empêché de continuer et de m'accrocher. C'est comme j'explique maintenant à mes élèves, en fait, d'être passé par là aussi. Souvent, c'est vrai qu'on y vient tous pour gagner une médaille. Mais on est déçu, forcément, jusqu'à un certain âge, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas. Mais il faut aussi regarder derrière soi, regarder le parcours qu'on a fait jusque-là. Parce que c'est aussi du travail, pour aller jusqu'au championnat de France, c'est des sélections départementales, régionales. Donc forcément, il y a tout un travail avant ça. Il y a des médailles avant, mais souvent, la plus grosse, celle qu'on attend le plus, elle arrivera peut-être un jour ou pas, mais bon, c'est pas pour autant qu'on est un mauvais sportif, mais voilà.
Quel est ton parcours scolaire et professionnel?
Alors, en parcours scolaire, moi j'ai fait une première ES, économique et sociale à l'époque, et puis c'était une grosse erreur de ma part, enfin je suivais le conseil de mes parents. Et donc je me suis réorienté en première STMG, et donc j'avais déjà 18 ans, j'avais redoublé deux fois. À la même période, on me propose de passer mon diplôme d'instructeur fédéral et de donner des cours de karaté, et en plus d'être payé. Et voilà, c'est bon, moi j'arrête l'école. Donc j'ai fait le choix d'arrêter l'école, et ça c'était pas très judicieux, mais bon. C'était parti, je commençais donc à donner des cours en 98-99, et puis la loi change un peu, c'est pour donner des cours, par exemple au collège, il me fallait un brevet d'état. Donc je me dis, si j'ai eu mon diplôme d'instructeur, c'était pas facile, mais vu que je l'avais eu du premier coup, je me suis dit, tiens, je vais y aller au brevet d'état en candidat libre. Moi, je me suis planté. Donc, du coup, je suis reparti à l'école au Pont de C, et à côté de la ville d'Angers, ou à la maison des sports, avec Jeunesse et Sport. En 2006, j'obtiens donc mon brevet d'état, et du coup, je deviens professionnel, brevet d'état qui équivaut à un bac. Et en 2013, je valide un autre diplôme d'État qui équivaut à un bac plus 2.
Sinon, tu écoutes quoi comme musique?
Alors moi, c'est très éclectique, en fait. Je peux tout écouter, en fait. Là-dessus, je ne suis pas fermé. J'écoute autant de la variété française que de l'électro. Alors, en parallèle du karaté, j'avais monté une association de musique sur Segré avec des copains. On organisait les fêtes de la musique et avec Alexis, Johan, une petite bande, puis ce qui permettait aussi de faire autre chose que du karaté. Mais c'est vrai que là-dessus, ça m'a permis de vraiment écouter un peu de plein de choses. Ah, j'aime bien tout ce qui est Vitalik, Paul Kalkbrenner, tous ces petits trucs-là. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai écouté un peu de ça.
Quelle est ton expression favorite?
Comme je dis souvent aux élèves, la douleur est dans la tête. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Et sinon, j'aime bien chaque problème a une solution. Il faut savoir aussi des fois réagir vite et il ne faut pas non plus se dire qu'il ne faut pas abandonner. Et puis le but, c'est voilà, de trouver la solution au problème.
D'accord. Merci.
Merci à vous. Et puis, bonne continuation.
Vous aussi, du coup, c'est une belle journée.
On se fait une petite pause musique avant de continuer MLD News. Vous écoutez Mister You. Emmène-moi, à tout de suite.
Mais juste emmène-moi. Ici, je nous vois mourir. Et de pire en pire, je perds ma voix. Ma voix.
aujourd'hui. C'est le premier jour du reste de ma vie. Grâce à Dieu j'ai grandi, je suis même devenu le prince de ma ville. L'amour ça fait du bien mais des fois ça fait souffrir. Je me suis noyé dans ton regard en plongeant dans ton sourire. J'arrive même plus à réfléchir, je comprends pas ce qui m'arrive. Mon cerveau il est conscient, je crois que c'est mon cœur qui est naïf. Demain dès l'aube, à l'heure où blanche et la campagne, je partirai comme je suis arrivé, j'espère que tu seras ma compagne.
Oh je te suis, je te suivrai. Ici l'amour commence à s'essouffler. J'attends que tu m'emmènes, je te laisse me dire je t'aime.
Yo, t'es à mon ami à moi, car je sais bien que c'est réciproque. J'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de te serrer si fort. Je veux sentir ton cœur battre contre ma cage thoracique. C'est plus un regard revolver, c'est une arme destruction massive.
Mais juste emmène-moi, ici je nous vois mourir. Et de pire en pire, je perds ma voix, ma voix.
Avec moi je t'emmènerai au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Je te ferai des bisous partout, je parasiterai ton sommeil. On se lâchera pas d'une semelle, on fera ça toute la semaine. Je suis pas très fort en amour, mais avec toi je suis professionnel. Je sais quand t'as froid, je sais quand t'as froid, je kiffe quand tes cheveux sont mêlés. Ton visage d'ange, le matin qui se réveille à mes côtés. J'ai appris que mon cœur savait parler, je me suis mis à l'écouter. Nous deux c'est tout ce qui m'importe, je serai ton sauce, tu seras ma pote. Jusqu'à que la mort nous emporte, toutes les problèmes frappent à la porte. De bas des loups, mon cœur à l'heure où blanchit la campagne, je partirai comme je suis arrivé, j'espère que tu seras ma compagne.
Mais juste emmène-moi, ici je nous vois mourir. Et de pire en pire, je perds ma voix, ma voix. Oh juste emmène-moi, où tu veux, où le soleil brille. Loin d'ici, avec toi je ne m'en fais pas.
Emmène-moi loin d'ici, que j'oublie mes problèmes, que j'oublie mes soucis. Quand je suis avec toi c'est la fête, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et ouais c'est clair c'est net, je suis sur une autre planète.
Emmène-moi à travers le monde et ses années. Loin des autres et loin d'ici, je veux m'en aller. Mi amor emmène-moi, emmène-moi. Mi amor emmène-moi, emmène-moi.
Mais juste emmène-moi, ici je nous vois mourir. Et de pire en pire, je perds ma voix, ma voix.
C'était Mister You avec le titre Emmène-moi. Vous êtes toujours sur la MLD News, sur l'autre radio. Et on vous propose maintenant de rencontrer un autre entraîneur, cette fois-ci de basket. Il s'appelle Steven. Il a répondu aux questions d'Irina et Christy.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Steven.
C'est quel âge ?
J'ai eu 26 ans il y a 15 jours.
Ah ben bon anniversaire en retard.
Merci.
Du coup. Depuis combien d'années êtes-vous entraîneur de basket ?
Je suis entraîneur depuis l'âge de mes 18 ans, donc si je compte bien, ça va faire 8 ans. Et avant, j'étais bénévole dans une structure à Évron, donc depuis, on va dire, mes 14 ans, je suis entraîneur, entre guillemets, parce que je commençais à mettre les plots au départ, et puis après, j'en ai fait mon métier.
Ok, c'est bien, vous comptez bien.
Tu peux me tutoyer, par contre.
Pourquoi as-tu voulu faire entraîneur de basket ?
Parce que moi, j'apprécie l'humain, l'échange, la relation, et je trouve que dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus individualiste, et on a besoin de personnes comme nous, sans être prétentieux, pour justement favoriser un petit peu les échanges et le partage à travers le sport.
Ok. Entraînes-tu plusieurs équipes ?
Oui, ça va de 4 ans à 75 ans.
Ah
le,
ouais.
Le doyen que j'entraîne, il a 75 ans, par exemple. Donc, tu vois,
ah
c'est
ouais.
Très large. Et j'ai aussi des personnes en déficience. Par exemple, j'entraîne deux personnes atteintes de trisomie 21.
Quel est votre parcours ?
Alors, moi, j'ai un bac technologique, ST2S. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah non.
Sanitaire et social. Alors, les trois quarts, c'est des filles qui font cette formation-là. Donc, j'étais le seul garçon pour 30 filles. C'est le rêve pour un garçon. Et surtout pour l'aspect physiopathologie humaine, parce que quand tu fais mon métier, tu dois connaître un petit peu le corps humain. Et puis après, j'ai fait un service civique, un BPJEPS. Puis là, je viens de terminer ma dernière formation, qui est le DEGEPS, diplôme d'État, que j'ai validé, donc pour après être sur du haut niveau. Voilà un peu grosso modo.
Vous avez fait quand le service civique ?
Alors le service civique, je l'ai fait entre 17 et 18 ans. Je faisais partie des premiers services civiques sous l'ère de François Hollande, qui avait mis ça en place. Et donc j'ai fait mon service civique à l'Alerte Evron Basket. Et après, ils m'ont pris pour faire le BPJEPS. Donc, je ne sais pas si tu connais le BPJEPS, mais tu peux faire ça en contrat d'apprentissage. À l'époque, c'était en contrat d'avenir pour devenir éducateur ou éducatrice sportive.
Ok. Est-ce que c'est dur de devenir entraîneur ?
Tu veux dire la formation, ou est-ce que c'est dur après de vivre de ça ? En soi, c'est difficile, oui et non, par rapport aux formations, etc. D'en vivre, je te cache pas qu'on fait pas ce métier-là pour être milliardaire.
Ouais.
Faut le faire par passion. Après, je pars du principe qu'aujourd'hui, faire quelque chose par passion, ça a pas de prix. Je sais que nos générations, par exemple mes parents, n'ont pas forcément choisi leur métier. Donc il faut un compromis, sinon si c'est pour l'argent, bah, je me mets banquier. Hein. Après, ça peut être dur, hein, parce qu'aujourd'hui, la vie peut être chère aussi. Donc il faut s'adapter.
Okay. C'est quoi pour toi les qualités d'un entraîneur ?
Bienveillance, écoute, accompagnement et développement.
Qu'est-ce qu'il te faut pour bien commencer ta journée ?
Moi ?
Oui.
Je sais pas si je dois le dire. Moi, je regarde des dessins animés le matin. Je suis encore un vrai enfant.
C'est pas une honte.
Bah non, c'est pas une honte. Mais chacun son rituel, et c'est vrai que moi, ça m'arrive de regarder. Comment ça s'appelle La dernière fois, il y avait les Miraculous ou je sais pas quoi.
Miraculous.
C'est pas ma génération. Mais si on veut parler de ma génération, je regarde Pokémon sans problème. Je pourrais regarder 3 heures. Tu vois, par exemple, demain, j'ai une finale de coupe avec mes filles. Je sais déjà ce que je vais faire demain matin. Je vais regarder 2 heures de Pokémon. Je vais tout sauf penser à ma finale.
C'est quoi un bon échauffement en basket ?
Un bon échauffement ? Je pense que tu as 2 types d'échauffement. Tu as l'échauffement physique, donc c'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est des filles que je coach. Elles doivent être opérationnelles, elles doivent être prêtes à faire des efforts. Et par contre, je trouve qu'il y a un échauffement mental, parce que ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, primordial. Concentration, gestion des émotions et gestion du stress. C'est-à-dire qu'à la fin de l'échauffement, mes filles, elles doivent être concentrées sur l'objectif. Elles doivent pas être forcément stressées. Et puis, elles doivent être prêtes à aller au combat, au charbon, physiquement et mentalement.
Alors, vous écoutez quel style de musique, déjà ?
Moi ?
Oui.
Ah, on m'a pas posé la question. Très
bonne
question. Variété française.
Ah,
connais ?
Ok. Non, je
tu connais
pas.
Tu
connais
Céline
Dion ? Ah, Nino ? Oui, je connais.
Alors, Nino, je connais. Bah, mes frères écoutent ça, donc effectivement, ça m'arrive d'écouter ça, mais plutôt variété française.
Mais du gazo, vous écoutez ?
Ah, je ne connais pas.
Ah là là, on va pas s'entendre. Hein.
Alors, par contre, tu vois, alors je peux t'en surprendre parce que j'ai un registre musical très grand. Je peux écouter du Damso, par exemple.
Du Damso, oui, mais...
Aya Nakamura.
Ah, déjà là, on va
la
s'entendre.
La dégaine, sans problème.
On va s'entendre, très bien.
Je coche des féminines, donc elles ont une culture très... Donc, mais par contre, je peux passer de la dégaine à Céline Dion en 30 secondes.
Et alors, vous êtes plutôt été ou plutôt hiver ?
Hiver, j'adore la montagne.
Pourquoi ?
Parce que la montagne, c'est hyper intéressant en termes de respiration, d'effort physique et de récupération.
Ok, mais pourquoi vous aimez pas l'hiver, l'été, désolé déjà.
L'été, j'adore le soleil, mais j'aime pas les coups de soleil et je suis pas très fan de la mer.
Le matin, vous prenez quoi avant de partir au boulot ? Vous êtes plutôt jus de fruits ou café ?
Fruits.
Ah ! Vous avez participé à des tournois ?
Qu'est-ce que t'entends par là ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Tu veux ?
Oui, un truc comme ça. Si vous avez participé à des tournois, je sais pas, vous avez gagné des médailles, je sais
pas,
oui, un truc
comme
quand ça.
Quand même. J'ai 3 médailles à mon compteur et un titre.
Ah, c'est trop
donc,
bien.
J'ai un titre régional de coupe territoriale avec les U18 en Coupe de France. J'ai une médaille de bronze de la fédération.
Ok, oui, d'accord. Vu que c'est personnel.
J'ai été nommé personnalité de l'année mayonnaise en 2020.
J'ai une question. Vous êtes allé en Coupe de France
U18.
U18
basket. C'est-à-dire qu'on est parti
en finale.
On est alors en fait on a gagné le titre régional et donc après on va automatiquement dans la Coupe de France U18. On a gagné notre 16e de finale et en fait on a été en 8e de finale face à Mondeville qui est un centre de formation au niveau du basket qui est le meilleur centre de formation et on a perdu 145 à 35 mais j'ai le parcours historique pour une équipe mayonnaise en Coupe de France U18.
OK.
Ce qui est historique pour le département de la Mayenne.
D'accord.
Je pars avec ça, avec ce petite fierté.
Ok.
Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Oui, vous avez bien répondu à ma question. Alors, vos passe-temps préférés, vous aimez faire quoi pendant votre temps
libre ? Du tennis et aller au cinéma.
Ouais, on va bien s'entendre parce que moi aussi j'aime aller au cinéma. Vous avez des rêves ?
Oui, entre guillemets, oui. Personnel ou professionnel ?
Personnel et professionnel aussi, bien sûr.
Venir président de la République ? C'est une blague. pourquoi pas, je sais pas, on verra dans 10-15 ans, mais pourquoi pas, ouais, se lancer dans la politique. Et moi, j'aimerais bien être entraîneur sur une équipe jeune d'équipe de France, ce qui peut être jouable. Et dans 15-20 ans, être psychologue du sport.
Cool.
Psychologue du sport, c'est accompagner des jeunes ou des moins jeunes, en fait, des acteurs du milieu sportif, à peut-être faire passer certains traumas ou les accompagner sur des difficultés, ou ça peut être aussi accompagner des sportifs de haut niveau à rester mentalement au niveau, et donc soit accompagner des traumatismes et les accompagner à se comment on appelle ça, reconstruire, et puis sinon à accompagner la performance mentale des du haut niveau. Mais bon, après, je trouve que il y a la théorie. Mais bon, quand tu baignes dans le milieu, c'est plus enrichissant. Ça va être, faut que j'ai juste un peu la théorie entre guillemets. Mais...
Dans ce milieu, il faut quoi déjà dans ce milieu, il faut quoi exactement pour tenir les deux bouts ?
Ah, intéressant. Mm. C'est bien, parce que c'est un métier qui est difficile. Je travaille du lundi au dimanche. Pas forcément jour de repos.
Oh là là.
Je travaille le soir et le week-end je me déplace partout sur le territoire. Donc on va dire qu'il faut quand même avoir des amis.
Ok. Du coup, ça vous affecte côté vie privée, je sais pas, un truc comme ça.
Ah oui, c'est des sacrifices.
Ah ouais.
Je suis célibataire.
Ah là là. Mais enfin, vous allez trouver quelqu'un déjà, c'est pas grave.
Bah, il faut que je trouve, mais pour ça, il faut que j'ai du temps. Et aujourd'hui, ouais, je n'accorde pas forcément de temps à ma vie privée.
Merci à Steven d'avoir répondu à nos questions. On continue notre émission. Dans quelques instants, Christine nous parle d'une artiste qu'elle surkiffe. Mais avant, un petit morceau bien déter.
Ela vem na cavalgada, toda tatuada.
Dela. d'elle. Ou enfin demande d'elle.
De retour dans MLDS News avec un portrait d'artiste. Elle est présentée par Christy.
Aya Nakamura, c'est une artiste franco-malienne. Et Aya Nakamura est aujourd'hui une star internationale née en 1995. Aya a toujours baigné dans la musique. Elle est issue d'une famille de griots. Les griots sont des conteurs. Ils portent en gros le savoir de l'histoire et le partagent avec leurs semblables, souvent en musique et en chant. Elle arrive en France quand elle est petite. Au départ, elle s'oriente pas vers la musique, mais plutôt vers le monde de la mode. Elle finit par abandonner. Son premier titre, Karma, elle le sort sur Facebook à 19 ans. Elle choisit alors son nom de scène, Nakamura. Ça vient de la série télévisée Heroes. Tranquillement mais sûrement, Aya monte sa carrière. Elle fait des featuring comme Love d'un voyou avec Fababi. On arrive en 2017, Aya sort son premier album Journal Intime pour la petite histoire. Elle est enceinte de sa première fille. À l'époque, elle cache à sa maison de disques sa grossesse pour être sûre de signer son contrat. Puis en 2018 sort le morceau que tout le monde a déjà entendu, Dia Dia. C'est un énorme succès, disque de diamant, top vente dans différents pays, plus de 800 millions sur YouTube. Suite à un album nommé Nakamura et d'autres titres très célèbres, la dot Pookie disque de diamant aussi, elle s'est même offert un show sur le jeu vidéo Fortnite. Son dernier album, DNK, est sorti en 2023. Moi, je l'adore pour son énergie. C'est clairement un modèle à suivre. Elle a réussi dans sa vie.
Merci Christy pour ce portrait inspirant. Faut savoir qu'à la MLDS, on fait aussi beaucoup de stages. Ça nous permet de découvrir différents métiers. Toi, Irina, tu as été pas mal découvrir le métier d'assistante maternelle.
Déjà, il faut savoir qu'assistante maternelle, c'est pas seulement accueillir les enfants et passer la journée avec eux. Avant de les accueillir, il faut prévoir des activités pour les occuper et mettre leur sens en éveil. Puis, il faut surtout rentrer dans un personnage enfantin pour les amuser et qu'ils soient bien en notre présence. Le matin, à l'arrivée des enfants, on privilège les activités calmes, par exemple lire des histoires, chanter, des comptines et parler de ce qu'ils ont fait la veille en rentrant chez eux. On les laisse se réveiller tranquillement pour éviter de les rendre de mauvaise humeur dès le matin. Après, on peut aussi faire des petites balades avant le déjeuner pour leur ouvrir l'appétit. Puis après arriver la sieste, le goûter, puis les activités prévues. Ce qui nous plaît dans ce métier est le contact avec les enfants et leur apprendre de nouvelles choses puis créer un lien avec eux. On peut aussi rajouter que si tu as un bon contact avec les petits, tout peut être facile à part peut-être les calmer après le départ de leurs parents et être constamment dans le bruit.
Merci Irina, on va aussi vous emmener à la rencontre de salariés de l'asso Poc Poc.
I don't wanna go there. We should never go there. Damn. Why you wanna go there? I guess I gotta go there. You're hearing rumors about me, and you can't stomach the thought of someone touching my body when you're so close to my heart. I won't deny what they're saying, because most of it is true, but it was all before I fell for you. So please wait, so please don't judge me, and I won't judge you. 'Cause it could get ugly before it gets beautiful. Please don't judge me, and I won't judge you. And if you love me, then let it be beautiful. 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 Everything I say right now, it's gonna be used in another fight. And I've been through this so many times. Can we change the subject?
you're gonna start asking me questions like, was she attractive? Was she an actress? Maybe the fact is, you're hearing rumors about me and saw some pictures online saying they got you so angry, making you wish you were blind. Before we start talking crazy, saying some things we'll regret, can we just slow it down and rest? We said you're beautiful,
so baby,
so please don't judge me, and I won't judge you, 'cause it can get ugly before it gets beautiful. Please don't judge me, and I won't judge you. And if you love me, then let it be beautiful. Just let the past just be the past, and focus on things that are gonna make us laugh. Take me as I am, not who I was. I promise I'll be the one that you can trust. So please.
Vous êtes sur l'autre radio dans MLD News. On est allé visiter cette année le site du Festival des Trois Éléphants à Laval. C'était pendant le montage. On a pu échanger avec des bénévoles et des salariés. On écoute.
On est au Festival des Trois Éléphants. Du coup, je suis en présence de
Simon Hermine. Donc, je suis salarié moi, de l'association POC POC. Qui est l'association qui organise le festival Les Trois Éléphants. Et on gère aussi la scène de musique actuelle du 6x4, qui est une salle de concert à Laval. Et on organise un autre petit festival qui s'appelle le festival Monde dans le bus, qui est un festival pour les enfants.
Du coup, votre mission au sein de l'association, c'est tout ce qui est...
Moi, je suis responsable de la communication et des partenariats pour tout pour le festival et pour la salle, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, mon rôle, on est beaucoup en contact avec les journalistes, comme vous aujourd'hui. On est en lien avec l'entourage des artistes pour récupérer toutes leurs infos, etc. Notre rôle, c'est vraiment de communiquer sur tous les projets de l'association, donc faire en sorte que le public se déplace pour venir voir les artistes, etc. Et puis, toute la partie partenariat privé, c'est un petit peu plus technique, mais du coup, je suis en lien avec les entreprises pour réussir à financer le festival.
Pour le coup, Simon, nous, on est un petit peu en quête de connaître les différents métiers liés au festival. Et on voulait savoir comment tu étais arrivé sur cette structure et sur l'association POC POC. Quel était ton parcours ?
Alors moi, je suis arrivé chez POC POC comme bénévole. Je suis arrivé à Laval pour mes études, c'est vieux, en 2010-2011. J'ai commencé par être bénévole la première année. La deuxième année aussi, et puis en ma troisième année, j'ai réussi à avoir un stage avec la chargée de communication à l'époque. Et donc c'est un petit peu comme ça que je suis rentré dans l'association. Après, je suis resté bénévole aussi après mon stage pendant plusieurs années. Je suis rentré dans le conseil d'administration. Et puis quand le poste de responsable communication s'est libéré, je suis devenu salarié par la suite. Voilà, donc c'est qu'une longue histoire avec les trois éléphants.
Quelles sont les choses qui vous plaisent dans votre métier et aussi quelles sont les choses qui vous plaisent le moins ?
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est là ce qu'on est en train de vivre en ce moment, toute la semaine de montage du festival. Nous, c'est un gros temps fort pour tous les salariés. On rencontre beaucoup de gens qui donnent de leur temps bénévolement. Et c'est toujours une chance, du coup, quand c'est ton travail, de savoir qu'il y a autant de gens qui s'investissent bénévolement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, c'est un travail où je rencontre beaucoup, beaucoup de mondes différents. Le public, les bénévoles, les artistes, les journalistes, etc. Donc au quotidien, je suis vraiment en lien avec beaucoup de monde, et ça, c'est assez cool. Après, comme dans tous les métiers, il y a des choses que j'aime un peu moins. Bon, c'est toute la partie un petit peu administrative. On s'envoie beaucoup, beaucoup de mails. J'ai plein de tableurs Excel, de calculs, de trucs. Ça, c'est les choses un petit peu moins excitantes, mais il faut bien les faire pour que tout se passe bien, justement. L'enjeu de notre travail, c'est qu'on a un an pour préparer un événement et tout se passe après en une semaine. Donc il faut bien préparer pour que tout se passe bien en ce moment, quoi.
Alors vos études ont un rapport avec votre métier actuel ?
Oui, ma formation a un rapport. J'ai commencé après mon bac, j'ai fait des études dans la communication. Donc c'était déjà un petit peu ce que je voulais faire. Après j'ai découvert le monde de la musique et du spectacle plutôt après avec le bénévolat, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup j'ai fait un DUT Service et Réseaux de Communication pendant 2 ans. Et après, je me suis plus spécialisé dans la communication, mais dans le secteur culturel, vraiment plus spécifique pour la musique.
Merci de nous avoir présenté votre travail.
Alors, mon métier est chargé de sécurité en 2 phases. La première, c'est d'abord tout ce qui est réglementaire et administratif. C'est de préparer en amont tous les documents pour pouvoir déposer un dossier de sécurité conforme à la mairie, qui est ensuite traité par la préfecture. Et ce sont eux qui nous donnent l'autorisation de faire l'événement. Avant l'ouverture du site, moi je dois être présent à vérifier si tout est conforme, si tout est réglementaire, récupérer tout un tas de documents qui vont être présentés à la préfecture, parce que vendredi matin, on a une commission de sécurité qui passe avec des pompiers, la gendarmerie, la DDTM, la préfecture, qui viennent voir si le site est conforme et si on répond à la réglementation pour donner l'autorisation d'ouvrir. Et si on n'est pas conforme, on n'ouvre pas. Pour ma part, je commence à travailler ponctuellement avec le régisseur technique, le directeur technique, au mois de décembre. Les premières propositions d'agencement, d'aménagement commencent à sortir. Donc je leur donne la réglementation, si ce qu'ils veulent proposer fonctionne ou pas et comment ils doivent l'adapter. Et ça au mois de janvier pour arriver jusque le jour d'événement. Février, on accélère un petit peu et en mars tout est prêt pour déposer le dossier de sécurité en préfecture. En fait, il y a plusieurs postes. On trouve d'abord la particularité de la sécurité incendie, les agents que vous voyez en rouge généralement. Donc on a pas mal de gars qui sont agents de sécurité incendie, les SIAP. Et puis après, en fonction de l'aménagement du site, donc celui-ci nous demande de faire des contrôles aux entrées. Donc on a des agents aux entrées. Ensuite, on a plusieurs scènes, donc il nous faut des agents à toutes les scènes. Il nous faut des équipes en volante également. Tout le site, en cas d'évacuation, a des portes d'issue de secours, on appelle ça. Vous les voyez matérialisées avec des bâches vertes et un petit bonhomme blanc sur les bâches. Eh bien, celle-ci, en cas d'évacuation, doit être ouverte en grand. Et c'est un agent aussi qui se charge de ça, donc ça représente quand même beaucoup, beaucoup de monde.
Je suis bénévole depuis 2010.
Aux Trois Éléphants.
C'est un jeu de rencontre, en fait, par l'association de parents. En fait, je suis venu voir un concert, c'était Arnaud, au 6x4. Et c'était en 2010. Et puis le lendemain, j'en discutais avec des gens que j'avais rencontrés dans l'association de parents d'élèves de l'école où était ma fille. Et il y a une personne qui me dit « Tiens, moi je suis bénévole là-bas, si ça te dit, tu pourrais venir faire du bénévolat. » Je dis « Bah tiens, pourquoi pas ?» et depuis, j'ai pas arrêté, ça s'est jamais arrêté. Mais après, je fais du bénévolat dans d'autres associations aussi. J'aime ça. Alors tout à l'heure, je disais un bénévole, c'est quelqu'un qui travaille sans être payé, mais sans être contraint non plus. C'est-à-dire qu'un bénévole, si je veux aujourd'hui, je dis au revoir, toc, et je m'en vais. Après, c'est pas sympa de le faire, mais si je le fais, c'est que j'ai envie. Alors que des fois, je vais au boulot, j'ai pas envie. Là, je suis là, je suis content d'être là.
Ça consiste en quoi le bénévolat pour Poc Poc ?
Alors le bénévolat pour Poc Poc, il y a plein de choses différentes. Ça peut être soit au 6x4, généralement au bar, pour servir les gens qui viennent, ou pour les entrées, pour les billets, pour tout ça. Sur le festival, ça peut être aussi bien sur le montage avec les collectifs déco, notamment, mais aussi tout ce qui est mettre des barrières et tout ça. Et sur le festival, alors ça peut être du service bar au, qu'on a vu tout à l'heure, le stand de prévention, le point info pour accueillir les gens, l'équipe accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ça peut être aussi du bénévolat technique sur les scènes, pour l'électricité, il y a toujours des choses à réparer, etc. Enfin voilà, c'est très 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 varié.
Est-ce que ça demande beaucoup d'investissement sur votre temps libre ?
Alors pour moi, oui, parce que moi ça me prend toute la semaine. Donc je m'arrange pour être en congé pendant cette semaine-là. Mais ça peut ne demander que le week-end, pour ceux qui sont là, que le samedi soir, et le vendredi soir et le samedi soir.
Pourquoi vous faites du bénévolat ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Déjà, le fait de m'impliquer dans la vie culturelle. Un festival sans bénévoles, ça ne marche pas. Mais quasiment tout ce qui est culturel, s'il n'y a pas de bénévoles, ça ne marche pas. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour faire marcher ça en n'ayant que des salariés. Ça me permet de rencontrer des gens. La preove, j'en rencontre encore. Et sans avoir à faire beaucoup d'efforts, puisqu'on est obligé de se croiser. On travaille ensemble pendant une semaine, par exemple, pour le montage. Là, moi, je suis au stand de prévention pendant le festival, donc je vais rencontrer des gens de l'équipe. Je suis aussi au point info, donc je vais rencontrer des gens de l'équipe. Quand je fais des visites, bah, je rencontre des gens. Je suis très bavard, donc j'aime bien parler, donc voilà, ça me convient aussi. Et puis, bah, j'ai l'impression d'être utile à quelque chose.
Est-ce que vous, pendant les concerts, vous y allez-vous ou pas ?
Je pourrais, je l'ai fait. Quand il y a un concert qui m'intéresse vraiment, bah, je me dis, bah, tiens, là, à ce moment-là, je vais prendre du temps et puis je vais aller au concert. Mais je ne fais pas ça pour les concerts. J'avoue, même au 6x4, sur les concerts du 6x4, ce qui m'intéresse, c'est de faire partie de tout ça, d'être un petit maillon de la chaîne qui fait que ça marche. Là, cette année, au festival, c'est très jeune, hein, les concerts. Ce n'est pas forcément ma tasse de thé en termes de musique, mais je suis content que ce soit là.
Est-ce que vous payez pour les concerts ou non ?
Alors, quand on est bénévole, notamment sur le montage et pendant le festival, bah, quand on est bénévole pendant le festival, non. L'entrée est gratuite. On a même un repas ou deux, selon si on est là toute la journée ou que la soirée. On a un repas, on a droit à, je sais plus, 3 ou 4 bières, des petits trucs comme ça. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est bénévole. Mais effectivement, c'est gratuit. Le festival est gratuit pour les bénévoles.
Allez, petite pause musique avant de continuer cette émission. Sea of Problem par Glitchery sur l'autre radio.
Vous êtes dans MLD News sur l'autre radio et on vous propose de rencontrer un de nos intervenants. Il s'appelle Oscar El Majouti, il est au micro de Christy.
Bonjour, j'espère que vous avez bien passé une bonne matinée.
Oui, merci infiniment.
Vous êtes dans le métier depuis combien d'années ?
Ça fait une vingtaine d'années.
Le matin avant de partir de chez vous, vous preniez un petit déjeuner ou pas ?
Je le prends après dans un café.
vous aimeriez faire quoi pendant votre temps libre?
Donc surtout visiter des musées, voilà, les expositions, des galeries, la nature, des spectacles, grandeur nature. C'est ça, ce sont mes passions.
Ok, vous écoutez quel genre de style de musique?
Musique de tout, hein, de la musique classique, voilà, même j'entends des fois du rap, voilà, toutes sortes de musique.
Ok. Et alors, pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier?
Parce que moi, j'ai fait des études d'architecture. Donc après, voilà, comme j'aime beaucoup l'enseignement, donc voilà, maintenant je suis enseignant et je, voilà, c'est dans l'art appliqué. L'art appliqué, donc c'est l'architecture, c'est le design d'objets, le design voilà, de graphiques et le design d'espace qui fait partie de l'architecture.
Qu'est-ce qui vous pousse à venir à la MLDS?
La MLDS, parce que vraiment, c'est des élèves qui sont voilà, en quête de, voilà, d'un projet, en recherche de projet. Et moi, j'ai toujours travaillé, que ce soit avec les adultes, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec des adolescents. C'est-à-dire, je leur propose une autre façon de faire, une autre façon d'apprendre et leur donner aussi goût. Ça veut dire de prendre confiance en eux et aussi de s'insérer. Et je leur propose pas mal d'activités, à savoir de la peinture, la sculpture, le dessin. Et voilà, et à partir de là, voilà, il y a des vocations des fois qui se créent. Donc ça suscite pas mal de vocations. Il y a des élèves qui vont faire après de la taille de pierre, d'autres qui vont faire par exemple de la peinture. Et ça peut être aussi la peinture de bâtiments. Hein.
Et alors, on a travaillé avec vous cette année sur les maisons troglogiques. Et on a eu la chance d'aller sur Angers avec vous. Pouvez-vous nous parler de ce projet?
Oui, donc ce projet-là, c'est-à-dire c'est dans le cadre d'une action éducative ligérienne qui est vraiment proposée par la région Pays de la Loire, qui est intitulée « Histoire d'ici, connaître et faire valoriser le patrimoine de la région ». Et donc moi, j'ai semé ce projet-là à la région, surtout dans la découverte du patrimoine troglodytique. C'est un patrimoine qui me passionne, j'ai beaucoup travaillé sur l'habitat troglodytique. Et c'est pour ça, c'est-à-dire, j'avais proposé, c'est-à-dire les deux sorties, et c'est pour ça qu'on a fait les deux sorties chez Richard Rack, qui est un artiste qui travaille beaucoup autour des cabinets de curiosité, mais la particularité, ça veut dire qu'il expose ses œuvres sous terre, dans des habitations troglodytiques. Et après, on a visité aussi une œuvre monumentale, composé de deux espaces, un espace qui est creusé sous terre, un espace à ciel ouvert. Ça s'appelle l'Iris terrestre de Jacques Warminski. Et donc c'est une œuvre, c'est-à-dire, qui est très intéressante, très riche, parce que c'est une œuvre, on rentre dans la matière, on se déplace sur les sculptures, on marche sur les sculptures, on tourne des fois autour des sculptures, ce qui n'est pas le cas d'un musée. On n'a pas droit de toucher à la sculpture. Donc moi, c'est-à-dire mon objectif, j'avais voulu vous faire découvrir un peu ce patrimoine qui est très très riche et surtout découvrir aussi comment ces artistes, au lieu, si on prend le cas de Jacques Warminski, au lieu de créer ou de creuser des habitations troglodytiques, lui, il a créé une œuvre. Donc c'est-à-dire il a acheté un village troglodytique, c'est-à-dire très ancien, et après... Il n'a pas touché au village, il a restauré uniquement quelques parties. C'est-à-dire quand les gens viennent visiter cette œuvre-là, ils traversent le village, c'est-à-dire la partie la plus ancienne, ils vivent un peu l'histoire et d'un seul coup, ils changent complètement d'époque, ils changent de monde en découvrant son œuvre qui est complètement une œuvre contemporaine.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Et voilà, j'ai eu plaisir à travailler avec vous autour de ce projet-là. Et là, aujourd'hui, j'ai eu un mail comme quoi, de la région, ils vont valoriser notre projet pendant la journée du patrimoine, au mois de septembre. Donc, ils vont exposer un peu votre travail.
Voilà. Merci beaucoup, c'est super.
Voilà, européenne du patrimoine.
Merci beaucoup, c'est super.
Eh bien, je vous en prie.
MLD News, c'est presque fini. Bon, avant de se quitter... On vous propose de rencontrer avec un de nos professeurs de la MDS cette année.
Bonjour, Mme Marino Garcia.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va et toi?
Ça va, merci. Ça ne fait pas bizarre de venir à l'autre radio?
Ben, je suis très contente d'être là avec vous tous.
Alors, je vais vous poser des questions.
Oui, vas-y.
Alors, première question, vous avez fait quoi comme parcours?
Alors, j'ai travaillé de très nombreuses années au CFA des Trois-Villes avec des apprentis, donc du niveau CAP au bac pro. Et voilà, j'ai donné des cours aussi dans des centres de langue, en anglais et en espagnol, avec plus de 30 ans au CFA des Trois-Villes.
D'accord. Quelle matière enseignez-vous ?
Alors, j'ai fait de l'anglais, du français et de l'espagnol.
Ok. Pourquoi avez-vous voulu faire ça, ce métier ?
J'aime bien le contact avec les jeunes, je trouve que c'est très enrichissant. Et puis, j'aime beaucoup propager un savoir, si c'est possible, quoi. Donc, et toujours dans un bon contact, il faut que le jeune se sente bien pour qu'il puisse apprendre.
D'accord. Est-ce que vous vouliez faire ce métier plus jeune, enfin le métier ?
Et au départ, je voulais être graphologue, mais après, ça m'a passé. Et puis, comme j'ai commencé dans l'enseignement, ça m'a plu, ce contact avec les jeunes. Et je pensais que c'était une bonne voie.
Est-ce que c'est long de préparer un cours ?
Tout dépend le sujet choisi. Parce que souvent, c'est des sujets qu'on connaît plus ou moins. Donc, quand c'est des connaissances générales, il faut un petit peu rechercher des informations et voir des vidéos et lire des documents. Mais sinon, non, c'est... Avec l'expérience, c'est plus facile. Mais au départ, oui, c'est vrai que c'est un travail qui nécessite du temps.
Avez-vous une passion ?
J'en ai plusieurs. Donc, j'aime la musique, le chant, j'aime bien la peinture aussi, tout ce qui est un petit peu artistique. J'adore le jardinage, la nature, les animaux. J'aime beaucoup lire aussi. Voilà, un peu, mais plusieurs passions, mais pas forcément... Tout en même temps, je crois que ce que je préfère de tout, c'est le chant et la musique.
Sinon, pour commencer bien le matin, vous mangez quoi ou vous faisiez quoi ?
Alors, ça dépend si je me lève en retard ou pas. Et si je me lève en retard, c'est très très rapide, hein, un petit café et puis un petit gâteau. Et sinon, je change. Thé au lait avec des tartines, mais c'est quand même assez rare.
Sinon, vous êtes plus montagne ou plus mer ?
Ah, plus mer.
Oui. Vous êtes plus été ou plus hiver ?
Plus été.
Vous aimeriez voyager où ?
Voyager un peu partout. Peu importe la destination, je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir partout. Surtout le contact avec les gens, quoi. Donc, j'ai déjà pas mal voyagé déjà. Et c'est toujours le contact avec les autres qui est enrichissant. Voir comment les autres... vivent leurs coutumes, s'adapter un petit peu à leur façon de vivre, quoi.
J'avais une autre question.
Sinon, quel est votre type ou auteur préféré en musique ?
En musique, ouais. Alors moi j'ai un chanteur préféré qui est pas très très connu mais qui commence à être un petit peu plus connu maintenant, qui s'appelle Ben Mazué. Et en fait, j'aime beaucoup ses textes, j'aime beaucoup ses musiques et voilà, il véhicule de super textes, de super vibrations. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, sinon j'aime beaucoup la funky music, la soul music, un peu de tout en fait.
Et alors, vous pensez quoi de la MLDS ?
Je pense que c'est un endroit qui est vraiment privilégié, où les jeunes peuvent vraiment s'épanouir. Et on prend soin les uns des autres et je pense qu'on ne peut ressortir qu'heureux de cet établissement, enfin de cette structure, parce que l'équipe est formidable et puis c'est vraiment dans un climat de bienveillance, d'empathie extrême et c'est vraiment, je m'y plais énormément. Et moi, je peux vous poser des questions ?
Oui, bien sûr. Oui.
Alors Maëlle, est-ce que tu as une passion à part les dessinateurs japonais, les personnages de manga ?
J'aime beaucoup dessiner, j'aime bien lire. J'aime beaucoup lire.
Et est-ce que tu as un auteur préféré ?
En vrai, j'en ai pas spécialement parce que j'aime bien voir plein de trucs différents. J'aime beaucoup ce qui est sur le voyage, j'aime beaucoup vraiment m'évader un peu, on va dire, dans les livres, je trouve ça cool.
Et si tu aimes voyager, donc ? Enfin, tu aimerais voyager ?
Ouais, mais ça dépend d'où.
Mais est-ce qu'il y aurait un pays qui te tenterait pour un voyage prochain, pour un prochain voyage ?
Un pays où il fait pas chaud.
Ah.
Ouais.
D'accord.
J'ai pas de pays en tête, mais... L'Alaska, oui, pourquoi pas, en vrai. Ça me tenterait bien, la neige et tout ça.
Ok. Quelles sont tes passions ?
Moi, je pratique déjà de la danse. Et j'ai un groupe avec mes cousines, mes sœurs en même temps ici. Et j'écoute beaucoup de la musique, bien sûr. Et j'aime beaucoup manger. C'est une passion pour moi.
Et quel est ton plat préféré ?
Mon plat préféré, alors, c'est des bananes avec du poulet. Ouais.
Et tu pratiques la danse, c'est quoi comme type de danse ?
La danse hip-hop, le zouk en même temps aussi, plein. Mais pas le ballet, je déteste le ballet.
Ah, d'accord. Et tu pratiques la danse dans un club ?
Non. Je préfère faire avec des personnes proches que genre, j'apprécie.
D'accord.
Comme mes cousines, mes sœurs, même mes frères.
Irina, quelles sont tes passions à part le football ?
J'écoute beaucoup de musique. Je danse toute seule dans ma chambre, voilà. Je n'aime pas danser devant les autres. D'accord. Même si je le fais, mais voilà. Mais il y a ça.
Et c'est quoi ton footballeur préféré ?
C'est Wendy Renard, qui est en équipe à Lyon.
D'accord.
Qui joue pour la France. La capitaine.
Et là, tu joues au football actuellement ?
Oui.
Et tu joues dans un club ?
Oui.
Comment s'appelle le club ?
AS Bourny, à Laval.
Et tu as quelle position dans l'équipe en fait,
buteuse, attaquante.
Ouais, ça m'étonne pas de toi.
Et je peux être sur les côtés, comme être un peu au milieu aussi. Enfin, ça dépend, on peut changer les postes.
Et pourquoi t'as choisi le foot en fait ?
En fait, j'en faisais déjà à l'école, donc j'ai demandé à ma mère d'en faire. Mais avant le foot, j'ai fait un an de tennis. Une semaine de basket, mais c'est tout. Et après, j'ai commencé à faire du foot et pendant 3 ans, j'en ai fait. Et après, on est venu sur Laval. Et voilà, ce sera ma 4e année.
Mmh. Et là, tu vas jouer en fin de saison ? Enfin, là, tu as des matchs de prévu ?
On a fait notre dernier match le 2 juin. On a gagné contre Changé 3-2.
Super. Et tu aimes la musique, alors t'as un groupe ou un chanteur préféré ?
Non, moi, j'ai pas de chanteur préféré. J'aime tout.
T'aimes tout ?
Oui, sauf le classique. Vous voyez ?
C'est quoi le classique ?
Les vieilles musiques, là. Classique.
Une musique d'un autre temps, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Non, après, j'aime bien les fruits. Vous voyez, les démons de minuit et tout. Vous voyez, les années 80, 90, ça, j'aime bien.
Ça, t'aimes bien.
Ça va.
Très bien.
Voilà.
Parfait, merci Irina.
De rien.
Allez, il est temps de vous laisser. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux camarades Nguyen pour la technique. Merci à l'autre radio pour l'accompagnement et les studios. Merci aux encadrants de la MLDS pour l'organisation de ce projet. Salut !